Je me demande s'il y a d'autres luttes depuis, mettons, 2007, dont tu aimerais parler, ou d'autres trucs qui se passent, ou ici comme ailleurs, qui t'inspirent à continuer de lutter.
Ouais, beaucoup de choses. En général, la population canadienne, on la connaît, est assez soumise, mais de temps en temps, elle se montre sa face humaine. Puis... Il y a plusieurs petites batailles qui se sont passées, comme à Tsawwassen, au sud de Vancouver. Il y a le gouvernement, puis la province, ils voulaient mettre des pylônes électriques à travers une banlieue, direct dans la cour d'école, à travers dans les jardins des gens derrière leur maison, puis c'est au voltage, ça donne le cancer, la leucémie et tout et tout. Fait que les gens se sont battus là. Il y a des gens qui ont pris de l'action directe. Il y a eu il y a un gars qui a monté une des tours, s'est attaché en haut là, s'est fait arrêter. J'ai entendu dire que les travailleurs de BC Hydro sont fait pisser dans leur auto. Il y a des gens qui ont uriné dans leur truck, sur le siège. Il y a un gars qui a menacé quelqu'un. Il s'est fait arrêter pour menace, whatever, puis il était bien en crise. Hein, puis, il y a certains anarchistes qui ont essayé de faire des contacts avec cette lutte-là, mais c'est comme. C'était réformiste, puis les gens se sont comme assez vite placés. Une fois qu'il y a eu des cas de cours, tout le monde s'est back off. Il a dit, OK, on ne veut pas se faire arrêter. Fait que là, l'électricité passe à travers. Il y a de l'électricité aux États-Unis. Fait que ça, c'est une des potentielles batailles qui s'est passée. C'est difficile, en tant que rebelle, d'arriver d'un groupe qui se bat pour quelque chose. Puis en tant qu'outsider, en tant que de l'extérieur, d'arriver puis de dire, OK, on vous supporte, mais nous, on n'est pas réformistes, puis on veut de l'action directe. Là, c'est comme, ouh, tout le monde se back off. Puis dans toutes les batailles, il y a des groupes réformistes qui sont déjà là, des groupes d'activistes. Là, tout le monde regarde les deux, ils regardent les anarchistes, ils regardent les activistes. Là, ils disent, OK, on va peut-être essayer avec le peace, ou loin, avec la paix, puis le légalisme. Fait que c'est intéressant, il faut continuer, que ce soit les grèves sauvages, ou même les grèves légales. Les travailleurs, aller leur parler, puis voir ce qu'ils veulent, puis qu'est-ce qu'ils font, puis. Mais personnellement, mon focus right now, il est avec les Autochtones. Ça prend beaucoup d'énergie, de temps, je peux pas tout faire. Il y a d'autres gens qui font d'autres choses. Fait que, une des choses qu'on a faites depuis 2 ans, on a commencé une critique des parcs. Les parcs de nature publique, ou en général le concept des parcs. Fait que on s'est fait demander par une femme autochtone de la côte ouest, de l'île de Vancouver, et si on pouvait écrire une critique des parcs. Fait que un ami a écrit une critique historique un peu sur comment les parcs ont commencé dans le Oyster Catcher, le magazine de Denman Island qui sort tous les 1er mai. Fait qu'en 2008, il y a un article sur les parcs, mais plus une perspective historique d'où ils viennent, reliée à la colonisation, surtout partout à travers le monde, en Afrique, puis au Canada, aux États-Unis. Puis cet hiver, j'ai écrit un autre article, mais plus personnel et plus relié à notre relation, critiquant les parcs, mais en mettant dans le contexte notre relation avec la Terre. Non seulement une relation colonialiste, mais une relation urbaine, de civilisé, de dépendant urbain, de marché, de tout ça. Puis, j'essaie plus de parler comment le pouvoir coupe la Terre en morceaux, la rend en quadrillé instrumental, comme ils disent, pour l'industrie, puis la business, tout ça. Puis comment ça nous endommage, nous autres aussi. Comment, comme je dis, quand la Terre est démembrée, nous autres aussi, on l'est, tu sais. Comme un exemple, comme je disais plus tôt, sur la map, la Terre est divisée en propriété privée par le pouvoir, par le marché. Puis là, toi, tu veux déménager avec tes amis que tu t'es fait, puis vivre ensemble, mais tu peux pas vivre plus que 3 dans une maison. L'autre maison à louer est à 3 km. Puis là, tu te retrouves toute démembrée. Tu peux pas te rassembler à cause de la crise de map. La carte qui fait que ça, c'est légal, ça ne l'est pas. Ça, tu peux t'asseoir là, ça, tu peux pas t'asseoir là. Ça, c'est fait pour ça. Ça, tu peux aller prendre une marche dans la nature. Ça, tu peux aller faire du canot. Mais là, non, jusqu'à 11h du soir, il y a un garde qui arrive qui ferme la porte. Puis là, il faut que tu retournes chez vous dans ta petite maison privée. Fait que. En pensant à toutes ces choses-là, ça m'a fait penser un peu à la critique de l'appel, le texte français, le texte européen qui est venu ici. Puis, comment il parlait que le monde n'a pas pu être aussi endommagé, aussi rendu aussi inhabitable, et la socialisation aussi intense, si on n'aurait pas été chacun donné le refuge de l'espace privé, tu sais. On se fait, t'achètes ton petit morceau de terre, tu loues ton petit appartement, tu fais ton petit projet, puis tout devient privé, le reste du territoire n'est plus à toi. C'est tout, c'est à l'industrie, c'est propriété privée. Pis c'est ça mon problème, c'est qu'on perd notre territoire en ayant notre petit morceau, notre petite affaire de refuge, de propriété, d'espace privé, tu sais. puis je veux vraiment sortir de ça. Fait que, en écrivant une critique des parcs, j'ai comme réalisé un peu comment on est encagé. On est encagé partout, tu sais. Même si on pense que j'ai ma place finalement, je suis confortable, mais je peux pas sortir de ça. Là, il y a le voisin, propriété privée, il y a un parc là, il y a fucking une industrie là, il y a le gouvernement là. Ça fait que il faut détruire la map, comme les Mexicains en 1910, il faut brûler les maps. faut tout réorganiser ensemble, en accord libre, puis fucking avec la vraie vie, pas avec la vie de la business, du marché puis du gouvernement. Fait que c'est juste j'essaie de développer pour moi-même une nouvelle relation au territoire, une nouvelle relation, comment je vois ma vie par rapport où est-ce que je suis sur la terre, d'ignorer la réalité du pouvoir, de dire ok, ça c'est artificiel, ça a été imposé, c'est réel, on peut s'en débarrasser si on veut, si on est capable de rêver, si on est capable de mettre nos rêves en pratique, puis de nos désirs. Quand je parle de rêve, je parle d'imagination, de désir, de mettre ça en pratique. On a besoin de plus d'imagination.
Comment tu vois la ville par rapport à ça?
Ben, la ville pour moi c'est du capital concentré. C'est pas un habitat humain. Mais contradictoirement, les humains se retrouvent là. Il y a beaucoup d'humains pour différentes raisons économiques, sociales. Les gens se retrouvent en ville. Fait que une des choses que personnellement, pour moi, je peux pas vivre en ville, je deviens trop déprimé, puis je deviens useless, je peux rien faire si je vis ici. Fait que j'ai besoin de l'espace, puis j'ai besoin d'être dehors de ça. Mais ce que je veux faire avec des amis, on essaye depuis des années, on parle comment est-ce qu'on peut briser la frontière entre la ville et la campagne, entre la ville et la nature. Que soit tu vis en ville, tu es toujours là, puis tu fais tes affaires là, ou soit t'es dehors de la ville, puis c'est là que ça se passe. Puis j'aimerais ça, en ville, il y a du monde, il y a des ressources, il y a des matériaux de construction, il y a de la bouffe, il y a des gens, il y a beaucoup de choses, puis en campagne, il y a d'autres choses. Ben, en campagne, on a vu en dehors de la ville. Puis ce que j'aimerais faire, c'est avec des amis, on essaie de voir comment on peut, on a déjà commencé un peu, on vient ici, on ramasse du plywood, puis on construit une maison dans la montagne. En ville, il y a tellement de choses gratuites. Mais tranquillement, est-ce que les gens deviennent plus vieux? Peut-être c'est une question de véhicule aussi pour pouvoir déplacer le monde. Parce que tellement de monde sont en ville, puis si je tenais d'être ici, j'aimerais ça prendre un break, ben ce serait le fun d'avoir des cabines, des places. Est-ce que les gens peuvent aller passer une semaine, se ressourcer, revenir ici, puis continuer leur vie ici? Puis la même chose en campagne, le monde sont là, je suis tenu de voir les mêmes gens aussi. Il n'y a pas assez de monde, puis je suis tenu d'être ici, puis là, ok, viens en ville 2 semaines, puis ressource-toi, puis retourne chez vous, tu sais, puis commencer à faire ça plus, au lieu de toujours « Ah, moi, je suis un gars de la ville. Ah, moi, je suis un gars de la campagne. » C'est comme, non, on a besoin des deux pour l'instant, jusqu'à un certain point. Je veux dire, comme je dis, je deviendrais fou si je resterais ici, mais c'est comme, j'en ai besoin. J'ai besoin de venir ici, pas seulement pour les ressources, mais pour voir ce que les gens font. Non, c'est pas séparé. C'est une séparation artificielle, parce que tu regardes juste, en termes de colonisation, combien d'Indiens il y a ici, en centre-ville de Vancouver, c'est la plus grosse réserve au Canada, tu sais. Fait que la terre, la bataille pour la terre, elle se passe autant ici que là-bas. Mais pour moi, personnellement, encore une fois, j'aime mieux mettre des cabines pour que les gens qui sont pognés ici peuvent aller prendre un break puis aller sur leur terre. Comme il y a un ami qui me dit qu'il y a beaucoup de femmes chitalium, pour une raison ou une autre. Sur la réserve, il y a un nombre limité de maisons pour rester dedans. Puis les maisons se font passer de famille en famille, ben de parents en enfants souvent. Puis apparemment, à Mount Currey, sur la réserve, c'est pas mal tous les gars qui se retrouvent avec les maisons. Fait que beaucoup de femmes chez Allium qui sont obligées de partir de la réserve et venir sur Downtown Eastside, sur Hastings, vivre ici. Parce qu'ils n'ont plus de place à rester. Fait que ça, c'est une situation horrible. C'est de sortir de la réserve à aller dans une place parce qu'il y a plein de crack et d'héroïne. Tu sais, c'est comme holy fuck, ça presse. Il faut construire des maisons en haut là, puis il faut démontrer que c'est possible, et c'est possible de le faire. Et pas, la plupart des gens ont peur, tu sais. La colonisation, ça fait beaucoup de domestication, dans le sens comme mon chum il dit, si un blanc il dit jump, mais tu jumps, tu sais. L'Indien, il faut jumper, ok, le blanc il l'a dit, ok, il faut que je le fasse. Et puis la grosse crise de menace tout le temps. Fait que, il y a beaucoup d'Indiens qui ont peur. Ils ont peur de la police, ils ont peur de la prison, ils ont peur de ça, de ci, puis d'être une mauvaise leur réputation, bien, comme n'importe qui, on a vu, mais il faut briser cette peur-là. C'est ça qui est le problème. Il faut briser la peur, il faut redonner confiance aux gens. Puis, ça, je sais pas comment faire ça, mais je le sens en continuant, en faisant des choses. Mon chum Doug, il dit, c'est pas les mots, c'est les actions qui comptent. Parce que tu regardes les gens, tu les écoutes parler, ils disent ça. Tu les regardes agir, ils font d'autres choses. T'sais. Puis c'est leur agissement qui font ce qui est important. C'est ceux qui sont. Bon, on parle en ce moment, c'est important. J'écris je parle, mais je veux vraiment... C'est une question d'action, d'agir, qui fait que les gens peuvent regarder et dire « Ah, ok, c'est ça qui se passe. Hein. » On va juste parler, parce qu'on peut parler pendant des années, hein. Comme j'ai déjà fait.
Hein. J'aimerais bien t'entendre, parce que ça fait quand même des années que tu luttes avec les Autochtones. C'est quoi ta position en tant que jeune Autochtone? Comment tu vois l'implication?
Ok, bon, c'est important ça. Ça m'a pris des années à comprendre. Je suis arrivé en tant qu'allié, en solidarité, en tant que blanc qui veut apprendre, whatever. Pour moi, c'est une question d'aller écouter et d'apprendre parce que j'étais ignorant. Je connaissais un peu, whatever, mais j'ai pris un bon 10 ans à étudier l'histoire de la colonisation de l'Amérique. J'ai commencé dans l'Est, puis tranquillement, je suis venu sur la côte, puis j'ai compris ce qui s'est passé un peu, mais c'est une chose d'apprendre des livres, c'est une autre chose d'apprendre des colonisés. C'est comme deux choses différentes. Puis ça, c'est une critique que je fais beaucoup d'amis qui comprennent le trip de la colonisation, puis ça, mais ils veulent pas sortir leur livre. On parle, puis ils parlent de ce qu'ils ont lu. Ils veulent pas venir sur la terre à rencontrer les gens. Puis c'est comme, ok, le temps, ils sont ici, non? C'est pas le passé, c'est le présent. On est encore là, puis eux autres sont encore là. Puis... Mais pour moi, comme je disais un peu plus tôt, il faut tous qu'on retourne sur la terre. Je veux pas aller acheter ma bouffe au magasin qui vient du Mexique toute ma vie. J'aimerais ça que la bouffe est chez d'où elle vient, puis on la fait pousser nous-mêmes, puis en collectif, puis on la partage. Mais quand on parle de bouffe, de subsistance, des besoins vitaux humains, on parle de la terre. Bon, ok, comme j'ai dit tantôt, il faut tous qu'on tourne sur la terre d'une façon ou d'une autre, même si c'est en ville, whatever. La terre est en dessous du pavé, là, mais la première des choses, les premiers gens qu'il faut qu'ils retournent, c'est les gens qui ont été... Et bien, si par nous autres, c'est comme les premiers gens, comme ils disent, les Autochtones. Moi, j'essaie de leur expliquer qu'ils ne peuvent pas retourner sur la terre et être autonomes s'ils ignorent la société blanche puis ils leur laissent continuer à travailler puis acheter au magasin. Il faut que tout le monde redevienne autonome, mais il faut qu'on s'explique puis qu'on se parle. Fait que pour moi, ma relation, il y a beaucoup de différents côtés comme. On partage le même ennemi. On partage l'État canadien comme ennemi, tous les États, whatever. Les Autochtones se sont fait faire le génocide par l'État, par le marché. Fait qu'on partage quand même le même ennemi, mais on vient de différentes places. On n'est pas pareil. Moi, quand je suis au camp, quand je suis sur la terre, je suis là comme supporteur, comme invité. Je suis un guest, un invité. Puis ça ne me dérange pas d'être le reste de ma vie un invité. J'ai pas besoin d'être dire c'est chez nous, c'est ma terre. J'ai pas besoin de ça. Tant que. Il y a une communication, il y a un partage qui se fait. T'sais. Puis, c'est pas une question non plus de propriété. Le concept de la terre autochtone, c'est pas un concept de propriété, c'est un concept d'utilisation. Un concept que tu l'utilises, ça donne la bouffe à tes enfants, fait que c'est à toi. La terre est pas à toi, mais la patch de berries, de baies est à toi. Whatever, puis ça c'est normal. Si tout le monde commence à prendre n'importe quoi, ben, tes enfants n'ont pas de bouffe cet hiver, qu'est-ce qui se passe? T'sais? Whatever, c'est juste la logique. Non, il y a plusieurs côtés. Il y a une question pour moi de prendre responsabilité, comme je disais plus tôt, en tant que Canadien. Whatever, je suis né ici, j'ai profité des richesses du territoire, j'ai profité, whatever, que ce soit l'électricité ou que ce soit le bois de la maison. J'ai grandi dedans, whatever, tu sais, on a profité de tout ça, on a pris ça. Puis tu regardes, les Indiens vivent au... C'est quoi qu'ils disent? Le Canada, sur le niveau de vie des Nations Unies, on est rendu, on est quoi, 6-7 à l'échelle de 100. Les Indiens sont 77, whatever. Ils sont en bas là, tu sais, whatever. Fait que c'est juste une question de prendre responsabilité, de les aider à accéder à leurs ressources qui se sont faites voler, puis ils ont besoin d'accéder à la terre pour la bouffe, pour les cabines, pour l'eau, pour les affaires. Fait que travailler en conjonction, au lieu de travailler tout seul, de se battre, contre le gouvernement, contre l'État, le marché, mais juste dans notre coin, c'est de commencer à... OK, qui est là? Qui est contre l'État? Qui est contre le marché? Puis de commencer à se parler. C'est compliqué des fois, mais c'est une question de communication, mais de long terme, je pense. Parce que tout le monde vient d'un point différent, tu sais. Il n'y a pas un Indien qui est pareil que l'autre, puis il n'y a pas un Blanc qui est pareil que l'autre. Ben, en tout cas, il y a des similarités, mais quand même, c'est des individus, puis c'est une question de langue, de se communiquer clairement. Il y a beaucoup d'incompréhension, il y en a beaucoup. Fait que c'est une question de confiance. Les gens, une fois qu'ils savent qui t'es, d'où tu viens, ok, t'es pas un flic, t'es pas un raciste, t'as un bon cœur, ça. Là, ils commencent à faire confiance, puis là, il y a une communication qui s'établit. On peut parler de nos réalités, d'où on vient. Souvent, j'explique à des chums autochtones qu'il y a bien des immigrants qui viennent justement, qui sortent d'une situation horrible. sont réfugiés de guerre ou réfugiés de différentes oppressions. Puis il faut qu'il y ait de la communication, il faut qu'on partage ça. Il faut qu'on comprenne d'où chacun vient.
Est-ce que Maître Tapton m'avait dit qu'on avait compris juste vraiment la similarité, en tout cas une affinité avec des immigrants, du fait que ben, tous les deux ou toutes les deux étaient là ou se rencontraient sur la base, du fait qu'ils s'étaient fait voler leur terre? Elle avait compris ça quand elle était dans le pays d'une personne qui avait immigré ici, puis qu'elle avait participé à des luttes pour la réappropriation des terres, puis qu'elle avait été super inspirée par des formes d'organisation là-bas, puis de comprendre que, dans le fond, il y a une solidarité. Et si les immigrants ils sont là, c'est à cause du vol des terres aussi.
Donc, j'essaie d'expliquer comme un exemple récent. Il y a un chef de bande autochtone du nord du BC. C'est son propre peuple se bat contre des mines. Les aînés sont arrêtés sur la terre pour qu'on démine au nord du BC, les Talkland, whatever. Mais le chef de bande a été au Guatemala promouvoir les intérêts miniers canadiens au Guatemala. Fait que ça commence maintenant. Je dis, ça fait 150 ans que vous êtes fait coloniser, check. Vous êtes déjà, certains de vous autres sont déjà en train d'aller coloniser d'autres gens, t'sais. Ça prend pas de temps, t'sais. C'est ça qui nous est arrivé à nous. Là. C'est que c'est un processus qui se répète, puis qui se répète, fait que... J'espère qu'on va essayer d'arrêter ça dans les prochaines 100 années. Là. Parce que ça serait triste de voir des Indiens aller investir en Chine puis exploiter des Chinois. Ça arrive déjà, mais c'est comme...
Comme tu disais tout à l'heure, comme il y a plus de la moitié des compagnies minières au monde qui sont canadiennes, à cause des lois, probablement ici, à cause du système judiciaire. Mais...
Ouais, c'est à cause du territoire qu'on a. Il y a tellement de minéraux. L'industrie s'est développée très, très vite. À travers les 150 ans. Puis, c'est devenu une des plus grosses industries canadiennes. Hein, qui... Et la technologie aussi. C'est été exporté à travers le monde. Puis, les investissements, l'argent. Fait que, tu vois, c'est un exemple. Hein, c'est que le gouvernement canadien mine la terre indienne, mais un des Indiens va promouvoir les intérêts miniers dans d'autres territoires autochtones. C'est comme, oh, les chaînes. C'est ça le processus de l'histoire. C'est la victime qui devient victimiseur. Tu me fais mal, moi, faire mal à quelqu'un. C'est comme ça, il faudrait que ça finisse à une place. Hein. Tu devenir ce que tu te bats contre. Ça, c'est un des gros processus de l'histoire. C'est comme les Romains. Ils ont commencé à se battre contre les Carthaginois pendant 300-400 ans, puis ils sont devenus les Romains. Au début, c'était juste une fédération de villageois. Puis ils sont devenus les Romains, puis ils ont conquéri le monde. Puis c'est ça le processus de l'histoire, puis c'est ça qu'on veut pas devenir. Les bolcheviks, on a eu les capitalistes, on va faire notre propre capitalisme. Puis c'est quand. C'est toujours ça qui. Ça continue. Fait que, ouf. Bon, ça fait dur.
C'est de l'invasion corporative, puis après ça, de l'intégration corporative, la colonisation corporative. Toutes les corporations qui dévorent, puis qui vont même jusqu'à prendre les gens qui sont déjà dévorés pour leur donner du outil pour dévorer d'autres personnes.
Ouais. C'est la mentalité que si tu peux pas les battre, tu les joins. On a un « you can't beat them, join them », comme ils disent. Il y a beaucoup de gens, d'êtres humains de même. Ils se sentent comme « ok, on va pas gagner, fait qu'on va joindre notre oppresseur ». C'est comme « ok, non, c'est pas le même, ça marche ».
C'est comme tous les chefs autochtones qui sont rendus à Calgary quelques jours pour devenir chef national au Canada, représentant national des communautés autochtones. Ouais, tous d'entre eux, je pense qu'ils étaient 6, encourageaient le développement des terres. Plusieurs d'entre eux, c'était pour que les Autochtones puissent se développer économiquement ou puissent avoir intérêt là-dedans. Mais, enfin, il y a beaucoup de cette forme de collaboration. C'est comme, si nous, on peut aussi partager les intérêts ou le profit du système mis en place ou du capitalisme, nous aussi, on peut en bénéficier, on va collaborer, tu sais. Mais c'est comme, je trouve, une façon vraiment comme tu sais, ethnocentriste ou individualiste de voir le shit, parce que tu ne prends pas compte que comme le système capitaliste d'exploitation, ben, obviously, il se perpétue ou qu'il s'organise au détriment de d'autres.
Ouais.
Toujours en exploitant d'autres.
Comme dans le poulailler, le pecking order. Non, souvent, ça c'est basé sur le fait qu'il y a une espèce d'idéologie qui voit la technologie ou l'argent comme neutre. L'argent, je me suis tellement souvent fait dire que c'est juste l'énergie. C'est juste une énergie neutre passée entre les gens. T'sais. C'est comme, pourquoi seulement l'État peut imprimer de l'argent? Pourquoi il y a la face de la reine sur l'argent? Dis-moi pas que c'est neutre. Si ce sera neutre, ben, je pourrais pas imprimer ma propre argent. Non? Ouais, c'est une autre d'argument. Fait que je peux voir beaucoup de chefs de bande sont de même. T'sais. C'est comme, on faisait de la troc, du troc et de la traite avant. Fait que maintenant, c'est de l'argent. C'est la même chose. Hein. les ressources. Ils voient pas que non, le travail salarié, c'est une relation différente que la subsistance, que le truc, mon ami. C'est vendre ta vie, c'est vendre ton corps, c'est la prostitution, c'est l'esclavage, avec un petit paycheck à la fin, là. Une drôle de compensation, un morceau de papier pour cet esclave, ou des marchandises en échange. Non, il faut continuer notre critique. J'imagine l'argent, qu'est-ce que c'est exactement l'argent? Un moyen d'échange, oui, mais c'est une relation de non-confiance. Quand tu as confiance aux gens, tu vas leur donner, c'est un cadeau, parce que tu sais que ça va te revenir. Mais quand tu donnes, puis tu sais pas que ça va te revenir, puis tu es insécure, mais là, on échange tout de suite, égal à égal. Tu vas faire ta vie, je fais ma vie, on a fini notre deal, tu sais. Comme certains anthropologistes ils disent dans l'état précivilisé, tu échangeais seulement avec tes ennemis. Avec une société d'échange monétaire, c'est une société d'ennemis jusqu'à certains. Ouais, personne ne se fait confiance parce que je te donne quelque chose, mais tu sais quoi, je vais te donner, puis rien qui va me revenir. Fait que, ok, on échange tout de suite. On a un échange valorisé. Non, continue à rêver, vivre sans argent, sans pouvoir, sans propriété.